Bienvenue au Diefenbunker, musée canadien de la guerre froide. Cet audio guide vous emmènera 4 étages sous terre et dure environ une heure. Utilisez cet appareil pour démarrer, arrêter, ignorer ou revenir en arrière. Ce carillon signale la fin d'un arrêt. Le siège central du gouvernement d'urgence, ou Diefenbunker, comme on l'appelait, est pleinement opérationnel à la fin de 1961 et demeure en service jusqu'en 1994. La base est alors connue sous le nom de Station des Forces canadiennes CARP, ou SFC CARP. Le Diefenbunker a opéré dans le plus grand secret à une époque où l'anéantissement nucléaire mutuel entre l'Occident et le bloc soviétique semblait dangereusement plausible. Même en temps de paix, travailler à la SFC CARP pouvait être stressant. Certaines des civils et des militaires qui ont travaillé ici ont décrit leur expérience du travail profondément sous terre. Vous entendrez quelques-unes de leurs voix au cours de cette visite. En tant que siège du gouvernement canadien, Ottawa était une cible d'attaque logique. Le bunker a été construit pour abriter le gouvernement d'urgence en cas de bombardement sur la capitale. Ce bâtiment souterrain massif a été construit pour résister aux effets d'une bombe atomique de 5 mégatonnes. Finalement, la guerre froide s'est terminée pacifiquement, en partie grâce à une diplomatie prudente pour naviguer à travers ces crises. La guerre nucléaire a été évitée et le bunker n'a jamais eu besoin d'être un abri pour un gouvernement d'urgence. Il a plutôt servi le Canada comme base de communication top secrète pendant plus de 30 ans. En entrant au bunker, vous avez traversé le tunnel d'explosion conçu pour dévier une onde de choc nucléaire et protéger les portes avant. Le bunker lui-même peut protéger et procurer eau et nourriture à 500 personnes pendant 30 jours, y compris le gouverneur général, le premier ministre et le cabinet de guerre, en plus du personnel essentiel du gouvernement, de l'armée et civil requis pour maintenir les opérations quotidiennes du bunker. Si une bombe nucléaire avait été larguée, vous n'auriez pas vu de famille ici. Les activités du bunker étaient top secrètes et seules les personnes désignées étaient autorisées à y entrer. Pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants. Le personnel franchissant ces portes s'enregistrait auprès du bureau de la sécurité et recevait un badge de sécurité doté d'un code couleur. Selon la couleur, le personnel avait accès à des sections spécifiques du bunker. Mike Green, technicien de télétype au bunker entre 1968 et 1972, explique comment.
About 85 to 90% of the place I wasn't.
Environ 85-90% du bâtiment, je n'étais pas autorisé à y aller. Si vous n'aviez pas besoin d'être dans un couloir ou dans une zone, vous n'y alliez pas. Et les badges indiquaient, par des bandes colorées de différentes couleurs, si vous étiez autorisé ou non pour une zone. Et chaque fois que vous arriviez à une porte, si vous n'aviez pas la bonne couleur pour franchir cette porte, vous n'y alliez pas. À la suite d'une attaque nucléaire catastrophique, toute personne arrivant au bunker aurait pu avoir des radiations mortelles sur sa peau et sur ses vêtements. Veuillez entrer dans le passage de décontamination pour en savoir plus sur le processus. Une personne contaminée se serait tenue dans cette première douche, entièrement vêtue, et serait restée là jusqu'à ce que l'agent de contrôle des radiations lui dise d'avancer. La douche empêchait les particules fines irradiées, comme la poussière, de se répandre dans l'air et de contaminer le bunker. Attention à la marche en entrant dans la zone de déshabillage. Tous vos vêtements mouillés auraient été jetés dans la chute sur le mur. La chute mène à une aire protégée où le personnel du bunker aurait disposé des vêtements en toute sécurité. Continuez d'avancer et vous entrerez dans la deuxième douche. Celle-ci est à l'eau chaude avec beaucoup de savon. Toute personne entrant au bunker après une explosion nucléaire aurait dû se frotter à fond, mais avec soin. Les radiations peuvent pénétrer dans le système sanguin par n'importe quelle coupure ou abrasion. La tête, les oreilles, le nez, les ongles et la bouche, tout devait être lavé à fond. Ici, vous seriez testé et invité à répéter la procédure si nécessaire. Une fois le test passé et rendu à l'intérieur, l'agent vous donnait une jaquette et des pantoufles de papier, et vous étiez dirigé au centre médical plus loin dans le couloir pour un examen. Personne ne savait le genre de blessure que les gens venant ici pourraient avoir. Mais ce centre médical était prêt à traiter les diverses blessures causées par une explosion nucléaire. Même si tout le monde était entré au bunker en bonne santé, un mois est un long moment sans que 500 personnes aient besoin de quelques traitements médicaux. Jetez un coup d'œil autour de vous et vous verrez la salle d'opération dotée d'un équipement de pointe. Une salle d'examen, un bureau pour la tenue de dossier, une pharmacie bien approvisionnée et une infirmerie comprenant 3 lits et une salle additionnelle dans le couloir. Il y a un lit simple supplémentaire dans une chambre à côté pour ceux qui auraient besoin d'isolement ou pour une patiente. Quelque chose d'autre que vous remarquez peut-être, les lits sont enchaînés au sol, comme de nombreuses pièces d'équipement. C'était nécessaire parce que les ondes de choc d'une explosion de 5 mégatonnes aurait secoué le bâtiment et envoyé en l'air les pièces d'équipement non fixées. Les salles du centre médical étaient maintenues à une pression atmosphérique plus faible ou négative. Cela contribue à réduire la propagation des maladies en suspension dans l'air. Les effets d'un confinement prolongé étaient inconnus, surtout si une guerre nucléaire avait été en cours au-dessus. Le bunker tentait de se préparer à toute éventualité. Les deux premiers lits dans la zone d'entrée étaient pour des patients d'hôpital additionnel ou peut-être au besoin pour un gardien. Jetez un œil par la fenêtre de la porte verrouillée. Cette chambre comprend 3 lits superposés, des casiers et des armoires. Ce qu'elle n'a pas, c'est une poignée intérieure pour sortir. Cette salle aurait été utilisée comme cellule de confinement pour toute personne du bunker ayant des conditions médicales graves ou celles faisant preuve de comportements dangereux pour elles-mêmes ou d'autres personnes. Pendant une attaque nucléaire, la vie au bunker aurait été extrêmement stressante. Le personnel en poste ici aurait été profondément affecté. Rappelez-vous, les familles n'étaient pas autorisées à venir au bunker. Même en temps de paix, travailler au bunker pouvait être exigeant. Le personnel civil et militaire devait gérer les défis de la vie dans un profond souterrain. Hélène Rosso, technicienne radio, explique comment même les couleurs du bunker ont été conçues pour combattre le stress psychologique. C'était soi-disant psychologiquement dommageable pour nous de vivre ici. Et c'est pourquoi vous verrez sur certaines des colonnes ici, il y avait des bandes grises et blanches et toutes les différentes couleurs. Ils avaient invité un psychologue spécialisé à venir et à choisir les couleurs. Et cela s'est passé juste avant mon arrivée, et c'était plus agréable comme il n'y avait pas de fenêtre. De la fin de 1961 à 1994, ce petit bureau a fait partie du plus grand centre de contrôle des messages, le CCM. Tous les messages entrants et sortants passaient par ici. Le personnel du CCM listait, traitait, enregistrait et distribuait des messages. De cette pièce, les messages étaient enregistrés sur du ruban magnétique et passaient à travers la fente dans le mur. De l'autre côté de la fente se trouvait la salle de cryptage. la lumière signalait qu'un message arrivait. Le cryptage est le processus de conversion du texte ordinaire en un code illisible pour toute personne autre que le destinataire. Pendant la guerre froide, le cryptage était essentiel pour empêcher les renseignements top secrets de tomber entre des mains soviétiques. L'opératrice de télétype Brenda Langman explique son travail en décrivant cette étape cruciale pour la confidentialité des messages. Nous avions un moment précis de la journée où nous devions réinitialiser nos machines de cryptage. Et en même temps, partout où elles vivaient dans le monde, les personnes à l'autre extrémité de ce circuit réinitialisaient aussi. De sorte que nos clés de cryptage, allaient toujours de pair. Parce que si un numéro était faux à l'une ou à l'autre extrémité, rien ne fonctionnait. Alors, définir la clé de cryptage était une action très détaillée et minutieuse. Dans notre monde numérique, nous utilisons toujours le cryptage tous les jours, généralement pour garder confidentiels les mots de passe et les informations personnelles. Le bunker a été conçu pour fonctionner même privé d'aide extérieure. Si l'un des télétypes ou téléscripteurs, et il y avait beaucoup de télétypes au bunker, était en panne, il devait être réparé sur place. Les télétypes étaient les machines ultra-performantes des communications gouvernementales des années 1950 jusqu'à l'utilisation à grande échelle des télécopieurs et des ordinateurs au milieu des années 1990. Les télétypes ressemblent à de grandes machines à écrire, mais ils sont en fait des dispositifs de communication sécurisés. Voici comment cela fonctionne. Un commis militaire dactylographie un message sur la machine au bunker. Ensuite, il l'envoie par un câble désigné à une autre machine ailleurs, peut-être dans un bureau ministériel ou une base militaire au pays ou ailleurs au monde. Là, le télétype imprime le message. Beaucoup d'employés du bureau de l'époque se souviennent du son familier des télétypes trépidants, produisant un bavardage de rouleaux de papier. Brenda Langman, opératrice de télétype, se souvient de ce bruit. Clac, 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 petite machine qui crache le ruban de télétype. Et il s'accumule sur le sol. Vous deviez être là, avec, vous savez, vos bottes militaires, et essayer de ne rien déchirer de tout cela, parce que si vous le faites, vous déchirez un message en deux. Et Dieu vous aide parce que vous ne pouvez pas le rattacher de nouveau ensemble. Si les portes avant, par le tunnel d'explosion, étaient endommagées, il y avait d'autres moyens de sortir du bunker. Les deux issues de secours, l'une ici et l'autre dans la salle radio, sont des goulottes étroites de 9 mètres de long menant à la surface. La goulotte était remplie de 6800 kg de gravier fin, de sorte que les radiations ne pouvaient pas pénétrer dans le bunker après une explosion nucléaire. Imaginez qu'une bombe a explosé. Vous et vos 500 compagnons de bunker avez attendu pour le signal que tout est correct. Ou peut-être vous avez manqué de nourriture après 30 jours. Vous avez surveillé la situation à distance avec un appareil appelé renifleur de radiation et vous espérez qu'au dehors, les taux de radiation ont diminué assez pour ne pas vous rendre malade. Tout d'abord, vous devez ouvrir les portes en acier et vous tenir à l'intérieur de la trappe. Puis, vous tirez le levier métallique. Le gravier fin déboule rapidement devant vous et à travers la grille dans le plancher. Cela fait un incroyable vacarme. Le vide créé brise la bulle en plexiglas couvrant le dessus. Enfin, vous espérez. Après cela, il n'y a qu'une direction à prendre. Vers le haut. La construction du bunker a été un exploit de la méthode de planification du chemin critique et du savoir-faire en ingénierie. Au centre de la salle se trouve une maquette à l'échelle du bunker utilisée par les planificateurs pendant les phases de conception et de construction. La maquette était essentielle pour planifier la manière dont tous les systèmes de survie autonomes et la production d'électricité s'adapteraient et fonctionneraient dans le bâtiment de 4 étages, tous complètement souterrains. Les différentes couleurs représentent différents systèmes de ventilation et de machines. Plus de 1000 travailleurs ont construit le bunker de près de 1000 mètres carrés en 18 mois. La structure principale a nécessité 24 320 mètres cubes de béton coulé à la main et repose sur 1,5 mètre de gravier compacté, ce qui aurait absorbé le choc d'une explosion nucléaire. Il était presque impossible que la construction du bunker demeure secrète. De nombreux résidents de Carpe se demandaient ce qui était érigé. On a dit au public que c'était un centre de communication, mais dès le début, les gens ont commencé à l'appeler le Diefenbunker, en référence au premier ministre en exercice, John Diefenbaker. Au cours de cette visite audio, vous visiterez les 4 étages du bunker. À l'heure actuelle, nous sommes toujours au plus haut niveau. Jetez un coup d'œil à la maquette et repérez l'endroit où vous vous trouvez. Si tous les autres systèmes de communication échouaient, il y avait toujours la radio. La radio militaire est généralement de point à point, pas nécessairement diffusée, à moins d'être reliée à un émetteur. Un câble enfoui sous terre reliait le bunker à un émetteur à Perth, en Ontario, à une 60 kilomètres d'ici. Les opérateurs d'ici pouvaient utiliser à la fois l'équipement radio à basse fréquence et à très haute fréquence pour communiquer avec le reste du monde, peu importe ce qu'il en restait. À titre des stations des forces canadiennes CARP, les spécialistes des transmissions militaires stationnés ici utilisaient la radio pour communiquer avec d'autres bases au Canada et partout dans le monde. Brian Jeffrey, un ancien technicien en électronique civile sous contrat avec l'armée canadienne, partage l'importance de la communication radio depuis sa station radar et à travers le Canada pendant la guerre froide. Chacune des 58 stations de la ligne Doux, qui s'étendait à travers l'Arctique, était reliée les unes aux autres par radio. Sans ces systèmes radio point à point, la ligne Doux aurait été totalement incapable d'exécuter son travail, de fournir les avertissements nécessaires pour alerter les gens d'une attaque ennemie sur le pôle Nord. Les communications radio étaient à ce point critiques. Lorsque vous êtes prêt, retournez au comptoir d'accueil et descendez par la cage d'escalier du niveau A, à côté de l'ascenseur de frais. Si vous avez besoin d'utiliser l'ascenseur, veuillez demander à un membre du personnel de vous aider. Descendez d'un étage jusqu'au niveau 300, où le gouvernement d'urgence du Canada aurait mené sa guerre nucléaire. C'est aussi là que vous trouverez la salle la plus top secrète du bâtiment. Si la guerre nucléaire avait éclaté et que le gouvernement d'urgence avait été séquestré ici au bunker, les politiciens et l'armée auraient eu besoin de renseignements exacts et opportuns pour prendre des décisions militaires. Ils auraient eu besoin de faire passer leur ordre rapidement et en toute sécurité, à l'abri de toute surveillance ennemie. La salle de communication dans laquelle vous êtes était très sécurisée. Peu de personnes du bunker avaient accès à cette salle. À côté du centre d'alerte fédéral, la salle des communications contenait des télétypes bruyants et était remarquablement bien insonorisée. Bien avant les télécopieurs, les courriels, les textos et le Wi-Fi, des télétypes robustes et fiables reliaient le bunker à NORAD, au centre du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, à North Bay en Ontario et à Colorado Springs aux États-Unis. L'emplacement souterrain du bunker aidait à protéger les services de renseignement nord-américains top secret de la surveillance soviétique. Allez-y, vérifiez votre téléphone cellulaire. Quel type de couverture obtenez-vous en ce moment au bunker? Les militaires du Centre fédéral d'alerte avaient la responsabilité cruciale de surveiller la situation militaire et d'approvisionnement partout au Canada à l'aide de l'information du système d'alerte avancé par les missiles balistiques du NORAD. NORAD, qui signifie Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, est une organisation conjointe du Canada et des États-Unis qui procure une alerte aérospatiale des attaques entrantes. En 1957, les Russes ont testé pour la première fois, et avec succès, un missile balistique intercontinental ICBM, qui pourrait atteindre n'importe quelle partie du monde. NORAD a été créé en 1958 et comprenait trois lignes successives de surveillance radar, connues comme ligne Pine Tree, ligne Mid-Canada et le réseau d'alerte avancée ou ligne DOO. En 1961, les Américains ont mis en place une quatrième ligne connue sous le nom de Système d'alerte précoce des missiles balistiques. Cette salle comportait autrefois une technologie unique appelée Iconorama, une carte électronique précoce qui traçait le mouvement des véhicules à travers l'Amérique du Nord en temps réel. Wayne Marshall, spécialiste des transmissions au bunker, décrit le processus d'observation des mouvements russes à travers l'espace aérien nord-américain. Parfois, ces messages clignotants survenaient en succession très rapide. Cela pouvait être des avions, cela pouvait être des sous-marins, et parfois, beaucoup de ces signaux étaient juste pour nous tester, pour voir si nous pouvions y faire face. Les Russes faisaient cela exprès pour nous agiter. Ils pouvaient voir des avions russes qui s'étaient immiscés dans notre espace. On les appelait les ours. Un ours russe était chargé d'équipements électroniques. Très chargé. Ils nous surveillent et nous les surveillons. C'est la guerre froide. Surveillés tout le temps. Les mises à jour et les rapports de situation reçus à côté dans la salle de communication étaient indiqués sur l'iconorama. Les militaires présents ici auraient informé le cabinet de guerre de la situation, conseillant le premier ministre et le cabinet d'urgence. Des exercices de préparation aux situations d'urgence ont été effectués au bunker pendant plusieurs de ces années d'opération. En situation d'urgence, lorsque des missiles nucléaires étaient dans les airs, s'abattant peut-être sur des villes partout au Canada, il était essentiel que les gens sachent qui était responsable. Le maintien de la chaîne de commandement, la continuité du gouvernement, était l'objectif principal du bunker. Selon la Constitution du Canada, un gouvernement légal doit être composé d'au moins 5 personnes spécifiques. Imaginez le premier ministre assis au bout de la table et le gouverneur général en face, flanqué d'au moins 3 ministres de la couronne. C'est là que des décisions de haut niveau auraient été prises en temps de crise. Il est facile d'imaginer la tension dans cette pièce remplie de fumée de cigarettes. 6 horloges au-dessus de la porte rappelaient à tous que le pays était en danger d'un océan à l'autre, partout. Les téléviseurs suspendus au plafond sont en circuit fermé avec le centre de situation d'urgence du gouvernement. Les téléviseurs suspendus au plafond sont en circuit fermé avec le centre de situation d'urgence du gouvernement, ou MGOVITSEN, situé de l'autre côté du couloir. Les télévisions auraient tenu le gouvernement au courant des événements et des situations à la minute près. La salle du cabinet de guerre se trouve directement entre le centre d'alerte fédéral et l'MGOVITSEN. Le centre d'alerte fournissait des renseignements militaires pendant que l'MGOVITSEN se préoccupait de la situation civique. Les deux types d'informations étaient nécessaires pour que le gouvernement d'urgence prenne de bonnes décisions. Tous les ordres du cabinet de guerre étaient transmis au secrétariat à côté, estampillés du grand sceau du Canada, et distribués de façon appropriée aux autorités civiles ou militaires. Essentiellement, le cabinet de guerre est l'endroit où un gouvernement d'urgence limité mais légitime aurait fonctionné en période de crise nationale cataclysmique. Assoyez-vous dans le fauteuil du Premier ministre et imaginez ce que cela aurait pu être d'avoir le poids de cette responsabilité sur vos épaules. Le secrétariat diffusait les ordres du cabinet de guerre. En fait, il agissait comme le conseil privé, le conseil du trésor et le bureau du premier ministre, réunis en une entité. Une vingtaine de personnes auraient travaillé au secrétariat, elles auraient informé le gouvernement, appuyé ses décisions et coordonné la circulation de l'information entre divers ministères et organismes gouvernementaux. Le Grand Sceau du Canada est sous la protection du bureau du registraire général, qu'il aurait apporté en venant au bunker. Le sceau était apposé sur tous les documents d'État produits par le Parlement, les rendant officiels. Deux types généraux d'information étaient nécessaires pour prendre de bonnes décisions pendant une crise nucléaire. L'information militaire et l'information civile. Le Centre de situation d'urgence du gouvernement, ou en forme abrégée, MGOVITSEN, s'occupait des communications du côté civil. Le personnel stationné au MGOVITSEN effectuait le suivi des dommages et des retombées d'une attaque nucléaire contre le Canada à l'aide de tableaux, de cartes, de surveillance vidéo et de caméras suspendues. La salle est divisée en deux sections. La zone d'évaluation des infrastructures et la zone d'évaluation des victimes et des dommages. Le personnel aurait évalué les infrastructures pendant et après une attaque nucléaire en se tenant au courant des conditions des systèmes de transport, de l'agriculture, des télécommunications, du logement, des hôpitaux, des sources d'énergie et de l'industrie. Des rapports arrivaient des fonctionnaires employés au sein de Defense Bunkers régionaux et municipaux dans chaque province. Et les retombées nucléaires étaient enregistrées par les sites du système de détection d'explosions nucléaires à travers le pays. Le tableau d'état étiqueté tableau des installations MGOV montre l'état d'activation d'autres bunkers régionaux à travers le Canada. La zone d'évaluation des victimes et des dommages surveillait l'impact et le résultat des attaques sur la population civile à l'aide de la carte d'état rétroéclairée. Cette carte localisait les explosions nucléaires à l'aide des rapports du commandement de NORAD. Le tableau d'état des alertes adjacent à la carte aurait été tenu à jour pendant une crise. Une caméra suspendue pointe vers la grande carte, recouverte d'une pellicule de plastique, qui effectue le suivi du trajet des retombées radioactives. Toute l'information aurait été envoyée à des moniteurs situés partout dans le bunker, y compris au cabinet de guerre. Les téléphones d'origine de cette salle avaient une pince sur le combiné. Cela permettait de sécuriser les lignes téléphoniques contre les ondes de choc déclenchées par l'explosion d'une bombe nucléaire à proximité. Écoutez David Peters de Préparation aux situations d'urgence Canada décrire les exercices d'urgence effectués dans cette salle.
But we managed to have a few...
Nous avons réussi à faire quelques exercices, surtout la dernière chose. Je pense que c'était 36 à 48 heures au cours desquelles nous pratiquions ce qui se passerait en cas de guerre nucléaire au Canada. Nous essayions simplement de pratiquer la circulation de l'information, parce que notre travail était essentiellement de faire circuler l'information provenant de sources extérieures et de sources que nous avions ici, de l'analyser, de la rassembler, et de la présenter au cabinet afin que le cabinet puisse prendre toutes les décisions qu'il devait prendre à ce moment. Le bunker était essentiel à la continuité du gouvernement en cas de crise nucléaire. Non seulement il y avait un gouvernement exécutif sous la forme du cabinet de guerre, mais certains ministères devaient aussi fonctionner. 18 bureaux situés au niveau 300 et 400 auraient fourni un soutien 24 heures sur 24 à leurs ministres respectifs. Regardez dans le couloir et vous verrez le ministère des Transports, le ministère des Travaux Publics et le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. Les organismes gouvernementaux participaient également aux opérations du bunker. Par exemple, la Société canadienne d'hypothèques et de logements avait un bureau ici. Cette agence aurait contribué à l'établissement d'hébergements temporaires pour les citoyens déplacés. Jetez un œil dans les bureaux reconstitués en examinant bien les pupitres. Les psychologues du bunker ont déterminé que les couleurs vives aideraient les personnes en situation de confinement à faire face aux conditions catastrophiques qui prévalaient au-dessus. Ces bureaux reflètent cette décision de conception. Vous entrez dans la pièce la plus top secrète et sécurisée du bunker. Bienvenue à Ossax. L'opératrice de télétype Jeannette Pudicombe a été l'une des rares à être autorisée à franchir ces portes. Il y avait beaucoup d'endroits ici qui étaient interdits pour beaucoup de gens. Et vous savez, si vous travaillez à Ossax, Ossax était la zone la plus restreinte. Et c'est là que je travaillais la plupart du temps. C'était là. Le nom officiel du bunker était la Station des Forces canadiennes CARP. Entre 1962 et 1995, la station a été un acteur actif dans le virage global vers les communications informatisées. La centrale à exploitation semi-automatique d'Ottawa, connue sous le nom d'Ossax, a été intégrée au bunker en 1981 pour remplacer une des plus grandes installations au niveau 400. Ossax était la plaque tournante des communications militaires reliant le bunker à un réseau national et international de stations réceptrices. Une fois les portes fermées, la pièce recouverte de métal devient ce qu'on appelle dans l'armée une cage de Faraday. Cela signifie qu'elle est totalement sécurisée de la surveillance électronique extérieure et peut résister aux impulsions électromagnétiques émanant d'une explosion nucléaire qui autrement désactiverait ou détruirait les appareils électroniques. L'entrée de cette salle était limitée aux personnes ayant une autorisation top secrète. Les deux ordinateurs bureaux B4800, semblables à ceux-ci, traitaient plus de 100 000 messages par mois. Les gros ordinateurs nécessitaient beaucoup de ventilation et de câblage. Une grande partie de ces équipements est contenue sous le plancher surélevé. Dans cette salle, la seule connexion au monde extérieur est le câble sécurisé de fibre optique qui passe à travers le mur. Les dortoirs du bunker étaient strictement séparés selon les sexes traditionnels. En tout, le bunker dispose aujourd'hui de 7 quartiers pour femmes. Plusieurs femmes ont vécu au bunker pendant ces années d'opération. À l'origine, les planificateurs pensaient que pendant une crise nucléaire, les femmes serviraient comme infirmières ou auraient des rôles de soutien administratif. Mais si une crise nucléaire avait obligé les politiciens et le gouverneur général à se réfugier au bunker, jusqu'à 110 femmes auraient potentiellement vécu et travaillé ici. Au fur et à mesure que la guerre froide progressait dans les années 1960 et 1970, les femmes progressaient vers la réalisation de l'égalité. De plus en plus, les femmes occupaient des postes de pouvoir politique et adoptaient des rôles plus variés dans l'armée. Les femmes qui travaillaient au bunker remplissaient une gamme de rôles dans l'administration, les communications, la sécurité et le soutien médical. Certaines femmes qui ont travaillé ici ont décrit les conditions comme très collégiales. Selon la technicienne de radio Hélène Rousseau, C'était du travail. C'était comme n'importe où ailleurs. Beaucoup de gens mettent les choses dans un contexte qui n'existe pas vraiment. C'est un environnement de travail. Je veux dire, vous le voyez aussi ailleurs de nos jours, donc ce n'est pas différent. La société Radio-Canada jouait un rôle important en cas de guerre nucléaire. Selon sa capacité en situation d'urgence, le bunker aurait logé 11 employés de la SRC pour s'acquitter des fonctions de radiodiffusion d'urgence. Quand les sirènes auraient retenti à travers le pays, les citoyens se seraient rassemblés dans leur maison ou dans leur refuge communautaire. À partir de là, on conseillait à la population d'écouter la SRC sur leur radio à pile, sur les fréquences de diffusion d'urgence. Toutes les diffusions sur ces fréquences provenaient de cette salle.
C'est une alerte réelle. Je répète, c'est une alerte réelle. Ici, le système de radiodiffusion d'urgence du Canada. On a repéré une attaque ennemie contre l'Amérique du Nord. Les sirènes ont sonné l'alerte ou la sonnent toujours. Restez à l'écoute pour recevoir de plus amples instructions.
Remarquez la manière dont l'équipement dans le studio de production repose sur des tapis en caoutchouc. Ceci aurait absorbé le choc d'une explosion nucléaire en stabilisant l'équipement. Au bunker, la vie privée n'était pas possible pour la plupart des gens. Seul le premier ministre et le gouverneur général avaient leur propre suite privée. La première suite est le bureau du secrétaire du premier ministre, et au-delà se trouve le bureau du premier ministre, et plus loin, la chambre et la salle de bain privée du premier ministre. Depuis ces pièces, le premier ministre en exercice aurait assuré le leadership d'une guerre froide qui serait devenue un temps chaud. Au moment de la construction du bunker, ce premier ministre était John Diefenbaker. Diefenbaker a été premier ministre entre 1957 et 1963. Il a nommé la première femme au cabinet, Ellen Fairclough, et la première personne autochtone au Sénat, Akai Namuka, également connue sous le nom de James Gladstone de la Première Nation Kainai. Son gouvernement a également adopté la Déclaration canadienne des droits. Diefenbaker a eu du mal à convaincre les Canadiens de la nécessité de protéger la nation contre une attaque nucléaire. En 1957, au Parlement, il aurait dit « Les gens ne veulent pas croire qu'il y aura un bombardement atomique au Canada. Cette pensée perturbe notre équanimité. Nous aimons examiner la situation comme si nous étions protégés et isolés par des milliers de kilomètres de mer et une calotte glaciaire au nord. Il faudra une campagne d'éducation pour que les gens se rendent compte du danger dans lequel nous nous trouvons. » Le lit simple met en évidence une dure réalité. Personne, pas même le premier ministre, ne pouvait amener leur famille avec eux. Diefenbaker lui-même n'a jamais mis les pieds au bunker. Plusieurs pensent que s'il avait eu une attaque nucléaire, Diefenbaker aurait refusé de venir au bunker sans sa femme bien-aimée, Olive. Diefenbaker n'était pas le seul à faire ce choix difficile. Toutes les personnes affectées au bunker étaient censées avoir pris des dispositions distinctes pour la sécurité de leur famille pendant une guerre nucléaire. Gary Dowd, qui a occupé divers postes en communication au bunker, et la technicienne radio Hélène Rousseau décrivent ce qu'ils pensaient de la règle dite « sans famille ». La chose étrange que j'avais toujours à l'esprit quand je me suis mariée était « Je pourrais avoir à venir ici et ne jamais revoir ma femme, ou voir mon jeune bébé garçon, parce qu'il faudrait se présenter au travail. S'il y avait une menace, vous ne les reverrez plus jamais. Ils seraient en cendres. » Vous aviez cela à l'esprit, cela devait l'être, parce que c'était la façon dont les choses vous étaient présentées à ce moment.
« Would you come in and leave your family? »
Allez-vous venir ici et quitter votre famille, ou resterez-vous avec votre famille? Et c'était ça. Vous savez, nous avons posé cette question à beaucoup de gens et nous avons dit, quel serait votre dilemme? Viendriez-vous pour protéger le site et travailler aux communications, ou resteriez-vous avec votre famille? Et je pense que c'était environ 50-50 ce que les gars disaient. Parce qu'ils disaient, il s'agit d'une attaque nucléaire. Fondamentalement, les seules personnes qui survivront seraient celles qui se rendent au bunker. Alors c'était une sorte d'affaire, vous pouviez aussi bien aller avec votre famille. Lorsque vous avez terminé ici, trouvez les escaliers et descendez jusqu'au niveau 200-100. Veillez être prudent en descendant et faites attention à certaines marches entre les pièces en bas. Bien qu'elle ne soit pas ouverte au public, vous pouvez observer la salle des machines depuis le niveau mezzanine. Chaque respiration que vous prenez dans le bunker aujourd'hui est une gracieuseté de cette pièce. Comme le cœur battant du bunker, les moteurs maintiennent tous les systèmes en opération, en particulier en cas d'attaque nucléaire. À l'extérieur du bunker, les infrastructures telles que des centrales électriques et des pipelines auraient sans doute été endommagées. Les retombées radioactives auraient empoisonné l'air et l'eau. Au bunker, l'électricité provient habituellement d'Ontario Hydro. Lors d'un confinement, le bunker pouvait générer sa propre électricité à l'aide de 4 moteurs diesel, le moteur vert au rez-de-chaussée. Il y a 5 réservoirs de carburant, 4 à l'extérieur et 1 à l'intérieur. Lorsque vous vous tenez sur la plateforme, les 4 soupapes métalliques pour les réservoirs extérieurs sont situées derrière vous. L'eau potable du bunker provient de 2 puits. Les réservoirs argent faisaient partie d'un système de récupération de chaleur qui fournissait l'eau chaude. Au bout de la salle des machines principales se trouve la salle de la filtration de l'air. Les filtres fonctionnent à 3 niveaux. D'abord un filtre grossier, ensuite un filtre HEPA, puis un filtre à charbon actif. Un dispositif de détection des radiations situé à la surface, ou un renifleur de rad, comme on l'appelait, envoyait un signal à cette zone si les niveaux de rayonnement étaient toxiques. Le bunker serait alors scellé et devrait compter sur ses propres systèmes pour les 30 prochains jours. Les ingénieurs et les opérateurs de machines qui travaillent ici étaient essentiels à la survie. Wayne Byrne, opérateur à la salle des machines entre 1967 et 1983, décrit le travail crucial consistant à tester la machinerie pour une situation de confinement. Il n'y avait pas de place pour les erreurs. Vous deviez savoir ce que vous faisiez. Et c'était en quelque sorte, c'était angoissant les 2 ou 3 premières fois. Mais après avoir fait quelques essais, et quelques-uns en particulier, comme la véritable panne de courant où nous avions une énorme tempête à l'extérieur et tout d'un coup, tout allait simplement devenir noir. C'était un choc pour le système. La voûte hautement fortifiée de la Banque du Canada a été construite séparément du reste du bunker. En marchant le long du couloir, vous quittez le bâtiment principal du bunker, mais vous êtes encore 23 mètres ou 75 pieds sous terre. Autrefois, en raison de la température plus fraîche, le personnel du bunker utilisait ce couloir comme zone d'exercice. Pendant une guerre nucléaire, la voûte de la Banque du Canada aurait protégé la réserve d'or fédérale. Jusqu'à relativement récemment, le Canada, comme la plupart des pays du monde, soutenait sa monnaie papier avec des réserves d'or véritables. La voûte a été conçue pour contenir environ 72 tonnes du précieux métal. Avant d'entrer dans la voûte, regardez les portes de près, mais s'il vous plaît, ne les touchez pas. car vos mains pourraient endommager le revêtement protecteur de graisse. La plus petite porte devait être ouverte en premier afin d'égaliser la pression à l'intérieur. Si la petite porte n'était pas ouverte en premier, la pression maintenait la grande porte complètement scellée, même si elle était déverrouillée. La plus grande porte pèse entre 10 et 30 tonnes. L'ouverture du système de verrouillage massif nécessitait 4 personnes, chacune détenant une combinaison unique qu'elle seule connaissait. Un espace étroit forme un carré autour de l'extérieur de la voûte centrale. Il s'agissait d'une mesure de sécurité supplémentaire. À chaque coin se trouve un miroir qui permettait à une sentinelle de voir tout autour de la structure centrale à partir d'un endroit. Bien que l'or du Canada n'ait jamais été conservé ici, les préparatifs en vue de son arrivée ont été déclenchés lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Vous êtes maintenant au plus profond du bunker, juste en dessous de la cuisine. Les zones ici en bas ont été conçues principalement pour le stockage des aliments. Nourrir les 500 résidents du bunker pendant un mois requérait une planification énorme et des fournitures considérables. L'entrepôt chambre frigorifique était rempli de légumes frais, de fruits et de viande. Lorsque les aliments frais auraient manqué après une semaine de confinement, les résidents de bunkers se seraient alors fiés à des sachets de rations militaires. Un petit ascenseur apportait la nourriture directement à la cuisine. Chaque jour, pendant plus de 30 ans, la cuisine du bunker a servi 4 repas par jour aux centaines d'employés militaires et civils stationnés ici. Des milliers et des milliers de repas ont été entreposés dans cet espace. Le réfrigérateur chambre avait un double but sinistre. Pendant un confinement, personne ne pouvait sortir. Tout le monde devait attendre que les niveaux de rayonnement diminuent. Entre-temps, si quelqu'un mourait à l'intérieur du bunker, l'enterrement devait également attendre. L'entrepôt frigorifique aurait servi de morgue, stockant les cadavres jusqu'à ce qu'une inhumation sécuritaire soit possible. Prenez garde à la marche lorsque vous sortez. Un garde inondation surélevé sur le sol aurait protégé les aires de stockage si la frappe à graisse à votre droite s'était déversée. Pendant plus de 30 ans, l'armée canadienne a opéré le bunker comme la station des forces canadiennes CARP. Plusieurs centaines de personnes, militaires et civils, étaient stationnées ici. Pendant la majeure partie des années 1960, elles ont vécu ici 24 heures sur 7. Dans les années 1970, la plupart du personnel vivait à l'extérieur du bunker et faisait la navette vers la SFC CARP. Les exercices de préparation aux situations d'urgence nécessitaient occasionnellement un confinement. Juste pour maintenir la pratique, en cas d'escalade des tensions de la guerre froide en une véritable guerre nucléaire. Pour les personnes stationnées ici, les loisirs et la nourriture étaient des moyens importants de réduire le stress de vivre et de travailler au bunker. Si vous aviez été l'une des rares personnes admises au bunker pendant un confinement, chaque minute de votre existence au bunker aurait été planifiée et imposée. Où et quand vous dormiez, quand et avec qui vous alliez manger, travailler et vous détendre, pour quelles tâches vous étiez responsable, même quel trajet vous auriez parcouru dans l'édifice. Une partie de la salle à manger était consacrée aux loisirs, où les hommes et les femmes jouaient aux cartes, aux fléchettes et aux palets. Même des événements historiques se sont déroulés dans cette salle. Michael Denoble, un responsable des installations, se souvient d'avoir regardé la série du siècle 1972 en hockey opposant le Canada et la Russie. Le plus grand événement qui s'est produit, je dois dire, quand j'étais à Carpe, c'est quand Paul Henderson a marqué le but qui a battu les Russes. La série avait été diffusée partout dans le bunker et je travaillais quand il a marqué le but et tout le monde est devenu fou. Regardez juste à côté pour trouver le Canex, qui était comme le magasin du coin du quartier, où le personnel pouvait acheter des petits articles comme des collations et des cigarettes. Des psychologues militaires se sont rendus au bunker pour donner des conseils sur les moyens de réduire le stress. Une recommandation très importante était de sortir chaque fois que c'était possible. Les personnes stationnées à la SFC Carpe se souviennent avec émotion des matchs de baseball et des événements sociaux comme le carnaval d'hiver. La bonne nourriture était essentielle pour garder les gens heureux. Afin de concilier l'horaire de travail 24 heures sur 24 du bunker, la cuisine préparait ou servait constamment des repas. John Publicover, qui a travaillé dans la cuisine de 1966 à 1976, décrit l'horaire.
When you're on shift work, like when I came here first, you fed 24.
Quand vous travaillez par quart de travail, et quand je suis venu ici pour la première fois, on nous nourrissait 24 heures sur 24. Par exemple, on vous servait le petit déjeuner, et puis vous aviez une pause café le matin à 10 heures, puis vous aviez le déjeuner, le repas du midi, puis la pause de 15 heures, ensuite le souper, puis le lunch de 21 heures, et ensuite vous aviez un repas à minuit, un repas complet. Puis vous aviez le lunch de 3 heures, le matin. Et puis vous preniez à nouveau le petit déjeuner. Alors vous aviez un repas toutes les 3 ou 4 heures. Des aliments frais étaient livrés tous les lundis à partir de la base militaire Uplands à Ottawa. Suffisamment de nourriture pour nourrir 150 personnes pendant 7 jours. Mais pendant un confinement, la cuisine aurait eu assez d'aliments frais pour nourrir 500 personnes pendant une semaine avant de se tourner vers des rations connues sous le nom de « paquets de repas individuels » ou des kits de remplacement de repas similaires aux rations sur le terrain. La cuisine avait un congélateur chambre, un réfrigérateur et une glacière. Un petit ascenseur reliait la cuisine à des espaces additionnels de rangement à l'étage inférieur. La salle à manger spacieuse pouvait accueillir de 150 à 200 personnes à la fois. Plusieurs personnes appréciaient les options d'aliments frais qui étaient offertes. Écoutons l'opératrice de télétype Janet Puddicombe.
It was the best mess I had ever eaten in.
C'était la meilleure salle à manger à laquelle je n'ai jamais mangé. La nourriture était toujours bonne. C'était toujours chaud. Et si vous n'aimiez pas ce qui était au menu, ils vous préparaient quelque chose d'autre. Je pense que bien des personnes ont été choyées avec les repas ici. C'était la meilleure salle à manger à laquelle je n'ai jamais mangé. Le SFC Carpe était une opération militaire avec une hiérarchie spécifique. Une petite pièce à droite de la zone de service était la salle à manger des sous-officiers et une salle fermée à côté de celle-ci était pour les officiers supérieurs. Toutes les autres personnes mangeaient dans la salle à manger principale. Trouvez la grande murale photo dans la salle à manger. Bien qu'installée pour créer un sentiment d'espace, il est impossible de ne pas imaginer les hommes et les femmes la regardant fixement pendant une guerre nucléaire. La règle du « sans famille » signifie que vos proches auraient probablement péri pendant que vous assuriez la continuité du gouvernement ici. Mais la belle scène de montagne aurait également été un rappel de ce que vous protégiez, à la fois dans une catastrophe imaginée qui ne s'est jamais produite, et pour ces centaines d'hommes et de femmes qui ont servi ici pendant 32 ans. sélectionner la dernière piste pour savoir comment la guerre froide a pris fin pacifiquement.
Gate is really quite extraordinary. West Germans have climbed up in a section of the wall. They're standing about 10 deep, looking over on the other side at soldiers on the other side. They're cheering, they're taking photographs, they're popping champagne corks. It's a party scene that's going to go on the whole evening. Berlin is still technically a divided city, but standing here at the Brandenburg Gate, you'd never know it.
En 1985, Mikhail Gorbatchev devient leader de l'Union soviétique. Il est déterminé à réformer son pays et à mettre fin à la course aux armements avec les États-Unis. En 1989, le mur de Berlin, symbole du clivage entre l'Occident et le bloc soviétique, tombe. Le 3 décembre 1989, au sommet de Malte, Gorbatchev et le président George Bush Sr. déclarent la fin de la guerre froide. De 1989 à 1991, une série d'événements politiques conduisent finalement à la dissolution de l'Union soviétique et à ce que beaucoup considèrent comme la fin de la guerre froide. Peu à peu, le Canada retire ses troupes d'Allemagne. Les dépenses militaires sont réduites. Le réseau de sirènes de raid aérien à travers le pays est mis hors service. Les gens du monde entier soupirent collectivement de soulagement et commencent à se rappeler jusqu'à quel point nous étions arrivés près de l'anéantissement nucléaire. Lorsque le bunker ferme ses portes en 1994, l'armée le vide de tout l'équipement et de tous les meubles. Le bunker est ensuite acheté par un groupe local de bénévoles qui perçoivent la valeur de conserver cet artefact emblématique du Canada et de la guerre froide. Quand vous quitterez le bunker, regardez autour de vous. Remarquez à quel point le bunker a été conçu pour être imperceptible, résultat d'une préparation soignée à une époque d'anxiété nucléaire. Le personnel et les bénévoles de Diefenbunker tiennent vous remercier de votre intérêt pour ce lieu historique national distinctif. Le Diefenbunker, musée canadien de la guerre froide, se consacre à présenter des histoires de la guerre froide, y compris la préparation aux situations d'urgence au Canada, et à promouvoir des moyens pacifiques de résolution des conflits. Nous sommes honorés que de nombreux anciens travailleurs et militaires nous aient raconté les histoires de leur vie au Diefenbunker et au Canada pendant la guerre froide. Lorsque vous avez terminé, veuillez retourner au niveau supérieur où vous pouvez rendre cet appareil au même endroit où vous l'avez pris. Merci de votre attention.